enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Verset qui, je pense, est très connu. Au verset 19. Matthieu 28, 19. Vous l'avez trouvé dans vos Bibles? Parce que j'aimerais vous encourager que même si vous connaissez très bien un passage, il est bon de le voir encore une fois dedans, dans la parole, voir les lignes, lire le passage. Et je dis, quand on cite un verset de la Bible, il mérite d'être cité entièrement et correctement. Pas un peu le bredouiller parce que, ah oui, je le connais celui-là. Verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc nous prenons toute la parole de Dieu comme venant vraiment du Seigneur, n'est-ce pas? Bon, il y a des choses qui nous expliquent simplement des récits, ou... mais nous croyons que Dieu nous parle au travers de ce que nous voyons dedans. Et il y aurait quand même quelque chose de particulier concernant les paroles de Jésus. Là, c'est Jésus qui a dit ça. On ne dit pas seulement « Jésus a fait ceci, cela ». Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est lui-même qui a dit « Voilà ce que je vous demande de faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et donc, j'aimerais que nous puissions méditer sur cette question du Seigneur qui a dit de former des disciples. Je dis former des disciples ou faites des disciples, on va voir la différence entre les deux tout à l'heure. Je crois qu'il y a trois types d'églises, ou plutôt qu'une église peut avoir trois aspects. Il y a d'abord l'église type familial. C'est la famille. L'église, c'est la famille. C'est la famille de Dieu. Nous sommes les enfants adoptés de Dieu. Donc quand on vient dans l'église grand E et qu'on se joint à une église locale, un groupe, on fait partie d'une famille maintenant. On n'est plus tout seul, on fait partie d'une famille. Et ça, nous avons fait partie de cette famille par alliance. Il nous est dit que Dieu a fait avec nous une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Et ce n'est, qui est comme dans l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas le moment de parler en détail sur ces choses, sur les alliances, mais simplement de se rappeler combien c'est important les alliances et combien dans l'Ancien Testament, toutes les alliances, souvent c'était des alliances de sang avec du sacrifice, ça veut dire c'était jusqu'à la mort. Et de la même façon, nous comprenons aussi le mariage comme sacré en étant une alliance avec notre conjoint pour toujours. Eh bien, nous sommes aussi dans la famille de Dieu. Et la vie de famille, donc, est quelque chose d'important pour nous et quelque chose de précieux aussi. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Ensuite, nous pouvons voir l'Église comme une armée. L'Église est aussi l'armée de Dieu. On chante des fois « Nous sommes l'armée de Dieu ». Et donc, l'Église est aussi l'endroit où le Seigneur entraîne pour la bataille, eh bien, ses vaillants héros pour reprendre le terrain de l'ennemi. Car nous sommes en pays conquis. Même si nous disons « l'Éternel règne », nous savons que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut, mais nous savons aussi, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit encore là, il dit « bien que nous sachions que Jésus a triomphé du diable, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Mais nous sommes là aussi pour être l'armée de Dieu et reprendre du terrain. Nous sommes dans un territoire qui est envahi par l'ennemi, et nous reprenons du terrain en faisant avancer le royaume de Dieu. Pour ça, il y a besoin d'une armée. Armée, ce n'est pas la même chose qu'une famille. Vous êtes d'accord? Ça ne se passe pas de la même façon. Ensuite, l'Église est aussi une organisation. C'est quelque chose qui est organisé. Nous pouvons prendre l'exemple aussi, ou organisation, ou peut-être plus juste encore serait organisme, un organisme vivant. Nous sommes un corps où chaque partie doit fonctionner ensemble et nous savons que quand des cellules ne font plus leur travail comme Dieu avait prévu dans un corps, on appelle ça des cellules cancéreuses. Elles se baladent n'importe comment, elles font du tort et elles détruisent le corps et elles prennent la vie du corps. Et donc là, il y a aussi besoin d'organisation. Tout est ordonné dans notre corps pour fonctionner. De la même façon, Dieu a ordonné certaines choses aussi pour le corps. de Christ. Et nous voyons Jésus lui-même. Nous pensons des fois, à tort, que Jésus étant conduit par l'Esprit, était comme une sorte de mystique, et puis de temps en temps il avait des flashs, va ici, fais cela, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et en réalité, lorsque nous étudions bien les évangiles, nous voyons que le fait d'être conduit par l'Esprit ne l'a nullement empêché, en aucun cas, d'être quelqu'un de très organisé. Et il ne disait pas, nous allons à tel village et puis on verra bien ce qui va se passer. Non, il a envoyé deux disciples pour dire, allez nous préparer un logement. Quand il a distribué la nourriture pour les 5000 hommes plus femmes et enfants, il a dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Quand il a envoyé ses disciples, il les a envoyés deux à deux. Il n'a pas dit, allez-y, faites comme bon vous semblera. Non, il les a envoyés deux par deux, sachant que s'il y en a un qui manque de courage, eh bien à deux, ils vont se fortifier. Et je pourrais prendre beaucoup d'autres illustrations encore. À un moment, les disciples, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient oublié de prendre des pains. Et puis, comme Jésus leur fait un reproche par rapport au levain des pharisiens, ils se sont dit, ah zut, c'est parce qu'on a oublié de prendre le pain qu'il nous dit ça. En fait, Jésus avait aussi organisé dans son équipe, il y avait un trésorier, il y avait celui qui s'occupait de ceci, de cela, etc. Donc, il y a aussi une organisation. C'est comme une entreprise qui doit bien fonctionner, l'entreprise du Seigneur. Josué 1.8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et nous voulons avoir du succès pour Dieu, dans l'entreprise de Dieu. N'est-ce pas? Oui? Donc nous aimerions que ça soit clair qu'il y a ces trois aspects de l'Église. Il y a l'aspect famille, il y a l'aspect armée, il y a l'aspect organisation. Et il y a contre ça trois attaques de Satan actuellement. Vous savez que l'esprit du monde veut toujours pénétrer en nous. Hein? Vous avez déjà remarqué? Il essaye de pénétrer en vous, l'esprit du monde. Et si vous ne l'avez pas remarqué, c'est peut-être que vous êtes séduit. Ou alors que vous êtes un cas spécial, le diable ne vous touche pas. Mais d'habitude, il essaie de tenter chacun d'entre nous. Et la première attaque est contre l'Église famille, c'est de rester seul et de ne pas s'attacher. Rester seul dans son coin. La deuxième attaque, par rapport à l'armée, c'est de ne pas vouloir de discipline, d'être rebelle et de ne vouloir faire ce qu'on veut. Et la troisième attaque concernant l'organisation, c'est vouloir agir spontanément et seulement par envie. Et ça, c'est des choses que nous voyons constamment en nous, parce que nous sommes, eh bien qu'ayant la nouvelle nature de Dieu, nous ne sommes pas parfaits, et les choses anciennes qui sont passées veulent des fois revenir, et la chair veut reprendre le dessus. Et ce matin, nous allons donc nous attacher un petit peu à étudier l'aspect disciple. Je ne crois pas avoir entendu beaucoup d'enseignements là-dessus. Ce n'est pas très populaire de parler du disciple. Ou alors, des fois, c'est maltraité dans le sens de vouloir contraindre les gens à rentrer dans quelque chose. J'ai encore entendu une réaction d'un ancien adepte d'une secte qui disait, quand je suis entré dans cet endroit, eh bien, ce qu'ils ont cherché avant tout, c'est à briser ma personnalité et vouloir que je leur sois soumis, mais en tant que personne. Et nous avons à voir que dans la Bible, nous voyons que le Seigneur veut des disciples, n'est-ce pas? Est-ce que vous en êtes convaincus? Le mot disciple est dans la Bible, il est même très souvent. Mais il n'est pas très souvent dans l'Ancien Testament parce que là-bas, bien, il y avait d'autres choses, d'autres termes qui étaient utilisés. Par exemple, on parlait des fils des prophètes. En réalité, c'était un groupe de personnes qui étaient là pour apprendre et être enseignées. Mais dans le Nouveau Testament, en particulier dans les évangiles, on parle énormément des disciples, et jusqu'à un certain point, et après c'est fini, on n'en parle plus des disciples. Vous savez à quel endroit? Voilà, à un moment donné, dans Actes 21, on dit, et c'est à Antioche, que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens, et ensuite on a gardé ce terme. Mais la notion de disciple, elle est toujours valable, vous êtes d'accord? Et chrétien n'était, au début c'était une façon de se moquer, oh, ils se prennent pour des petits Christ, mais en réalité ça exprime quelque chose, ça veut dire que l'onction qui habitait celui qui est oint, Jésus-Christ, eh bien elle accompagnait aussi ses disciples quand ils faisaient les mêmes œuvres que lui. Donc voilà où nous en sommes, nous allons voir un petit peu, nous attacher à cet aspect des disciples. Définition du dictionnaire, un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, une personne qui adhère à une doctrine. Et ça, nous comprenons que ça ne peut pas nous satisfaire. Parce que ça, c'est bien sûr, c'est le monde qui a fait cette définition. Donc pour eux, ça ne peut être qu'à un niveau intellectuel, recevoir un enseignement. Vous vous rappelez comme je vous avais partagé sur les différents aspects de la connaissance, il y avait la connaissance au niveau des sens, des sens physiques, il y avait la connaissance au niveau du savoir et la connaissance au niveau de la révélation. Eh bien là, ça c'est uniquement au niveau du savoir. Mais nous croyons que c'est plus que ça. N'est-ce pas? Croyons que être disciple, c'est plus que ça. Alors, qui est disciple de Jésus? Vous pouvez lever la main, ceux qui sont disciples de Jésus? C'est pas une question piège, mais des fois on se rend compte en étudiant la parole de Dieu que après il y a des choses où nous ne sommes pas tellement disciples de ça que ça. Ésaïe 54 contient une merveilleuse promesse. Au verset 13, il nous est dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. » Qui ne désire pas ça comme parent? « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. » Voyez déjà que disciple de qui? Pas d'un homme, disciple de l'Éternel. À un moment, quand il y a eu une discussion avec un homme que Jésus avait guéri, les pharisiens sont venus vers lui en posant des questions, et il a dit, mais je vous ai déjà tout dit, pourquoi me poser encore ces mêmes questions? Est-ce que vous voulez devenir ses disciples? Alors ils ont dit, non, nous, c'est toi qui es son disciple, mais nous, on est les disciples de Moïse. Alors eux étaient les disciples de Moïse, dans le sens que effectivement ils s'attachaient, on peut dire, à l'enseignement d'un homme, Moïse, bien que c'était parole de Dieu inspirée, néanmoins ils s'attachaient à Moïse plus qu'à Dieu. Et ainsi nous pouvons voir que on ne peut accepter le fait d'être disciple de Jésus que dans la mesure où Jésus lui-même est Dieu. Et nous ne sommes pas appelés à faire des disciples de nous-mêmes. Il y a un attachement, mais ici nous voyons que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Il y a une promesse rattachée, vous voyez. Grande sera la prospérité de tes fils. Qui ne veut pas prospérer? Qui? Tout le monde désire prospérer. Le monde entier cherche à prospérer. Quand les serviteurs de Dieu sont arrivés au Nigeria, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de mot dans leur langue native du mot prospérer pour traduire. Alors, ils n'ont pas trouvé de mot qui correspondait. Alors, chaque fois que le traducteur traduisait, il disait par « aller mieux ». Et je trouve cette définition, elle est bonne. Prospérer, ça veut dire aller mieux. Aller toujours dans un sens de quelque chose qui va vers un mieux. Et donc, voilà concernant les disciples de l'Éternel. Il faudrait que quelque chose... Jésus voudrait que nous soyons comme lui, n'est-ce pas vrai? Tout disciple sera comme son maître. Je vais prendre le temps de lire les différents passages. Tout disciple sera comme son maître. Vous l'avez déjà lu ça? Le disciple n'est pas plus que le maître, Luc 6, 40, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple veut devenir semblable à son maître, donc à Jésus. Combien de fois n'avons-nous pas chanté ces vieux cantiques « Te ressembler Jésus », des choses comme ça? Donc c'est bien d'avoir eu cette intention, mais maintenant il faut voir de quelle manière nous pouvons devenir comme lui. Devenir comme lui, ça veut dire que tout d'abord c'est le Seigneur qui prend l'initiative, il est venu vers nous, il est venu pour nous sauver, et ensuite il nous a choisis. C'est ce qu'il a fait avec les disciples. Nous ne sommes pas différents. Des fois nous pensons que nous faisons une grande faveur à Dieu en acceptant le salut. Bien sûr, ça rend Dieu content, heureux de voir que ses enfants répondent à son amour, mais c'est justement de ça qu'il s'agit. C'est une réponse à l'amour de Dieu. Et ce n'est pas nous qui avons eu une bonne idée parce que nous sommes très intelligents, mais nous sommes en train de répondre à l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a choisis. C'est ce que Jésus dit aussi dans Jean 15. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. C'est à Dieu de nous choisir et de nous mettre là où il veut, et à nous de suivre ses instructions et d'être là où il veut que nous soyons et de faire ce qu'il attend de nous. C'est ça être disciple. Alors les disciples, ils ont beaucoup de privilèges. Il y a des choses, des versets qui ne sont pas, je dirais, spirituels. Vous allez voir pourquoi. Je lis par exemple, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. » Ce sont des versets, quand je dis pas spirituels, ça veut dire ça décrit simplement une situation. Les disciples, physiquement, marchent et s'approchent de Jésus. Mais j'aimerais que, spirituellement, on le voit aussi comme ça. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'approche de Jésus. Quelqu'un qui est proche de lui. C'est pas juste n'importe qui, mais ce sont quelques personnes qui sont proches de lui. Ensuite, il nous est dit, dans un autre passage, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Là encore, ça décrit simplement une situation, mais les disciples le suivirent, nous parlent pour nous. Nous suivons Jésus. Un disciple suit Jésus. Si on ne suit pas, on n'est pas de ses disciples. Et on a beau se dire et se donner tous les noms qu'on veut, nous ne sommes pas en train de le suivre quand nous marchons simplement selon nos propres voies et prenons nos propres décisions. Et ensuite, donc, s'approcher, suivre et, troisièmement, demeurer. Jésus, il nous a dit qu'il y avait un endroit où il demeurait avec ses disciples. Là encore, c'est quelque chose, simplement une description, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où ils habitaient ensemble. D'accord? Mais en même temps, on peut aussi voir que le disciple, c'est celui qui demeure avec Jésus, qui reste avec lui. Et nous avons un passage où Jésus lui-même parle de ça. Il nous dit, dans Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » À l'inverse, « Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas vraiment mes disciples. » D'accord? Et le mot « vraiment » est important. « Vraiment », ça veut dire « en vérité ». Vous ne pouvez pas être disciple en vérité si vous ne demeurez pas dans sa parole. La parole de Dieu, le fait d'être disciple, sont intimement liés. C'est très très fort. Vous allez voir combien c'est fort. Jésus met tout l'accent sur la parole de Dieu. Et nous aussi, nous voulons le faire. Tout l'accent, toute la priorité est sur la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus important que ça. Demeurez. Demeurez dans sa parole. D'abord, que fait le disciple ? Il se laisse enseigner. Nous savons que le ministère de Jésus dans les évangiles, c'était avant tout enseigner, prêcher et guérir. C'était les trois principales choses qu'il faisait avec la foule. Enseigner, prêcher, guérir. Donc guérir, ça veut dire aider de toutes sortes de façons. Ça veut dire opérer une guérison ou opérer un miracle ou aider quelqu'un de quelque nature que ce soit. Mais il y avait donc le côté enseignement, le côté prédication et le côté démonstration. D'abord, le disciple, il est enseigné. Dans Marc 9:31, il nous est dit, Marc 9:31, car il enseignait ses disciples. Il enseignait ses disciples. Là encore, ça semble une phrase toute simple. Mais Jésus ne disait pas toujours la même chose à la foule et aux disciples. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà observé ça dans les évangiles? Des fois, il y a eu des discours qui étaient pour tout le monde, et des fois, il y avait certaines choses qui étaient que pour les disciples. La même chose pour nous. Il y a des choses qui sont très générales dans la parole de Dieu, et comme je disais, des trois types d'églises, il y a des choses où on parle à tout le monde. Quand les gens viennent, on dit « Dieu vous aime, il a tout fait ce qu'il fallait pour pardonner vos péchés », on parle de ce genre de choses. Mais quand on parle aux disciples, s'il y en a des vrais, on leur dit, mais vous savez, Jésus aussi attend certaines choses de vous. Un bébé qui vient de naître, on ne lui dit pas, tu sais maintenant, tout ce qui t'attend, toute la responsabilité qui est sur toi, maintenant que tu es venu au monde, non, on ne lui dit rien de tout ça. On s'en occupe, on le nourrit, on le soigne, on lui donne tout ce qu'il faut et on le laisse grandir et on l'élève. Mais quand il grandit, après on commence à lui rajouter, maintenant il y a des exigences, maintenant il y a des choses qu'on demande de toi, qu'on attend de toi. Eh bien, c'est la même chose pour les disciples. Les disciples ne sont pas des bébés, les disciples sont ceux qui veulent vraiment obéir au Seigneur. Ils se laissent enseigner. Ils se laissent enseigner par la parole de Dieu, mais aussi concernant des choses, comment vivre notre vie spirituelle. Luc 11, il y en a qui étaient venus vers Jésus en disant, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jean avait aussi ses disciples. Mais à un moment, il nous est dit que les disciples de Jean il y a eu comme un transfert, ils sont allés vers Jésus. Jésus a dit, Jésus n'a rien dit, mais Jean a dit, c'est bon comme ça, ça ne dérange pas. Parce qu'à un moment, les disciples de Jean disaient, nous perdons du monde, et maintenant il y en a plus qui vont vers Jésus pour se faire baptiser, il faut réagir, et Jean a dit, c'est bon comme ça, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc il se laisse enseigner. Et non seulement il se laisse enseigner, mais il a une attitude, le disciple, face à l'enseignement, qui est une attitude active. Tout le monde dit active ? Active et non passive. Ésaïe 50 nous dit ceci, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Il y a une façon dont les disciples écoutent. Ce n'est pas juste entendre du bruit, c'est écouter attentivement et aussi être prêt donc à les choses qu'on apprend, à voir quelles applications est-ce que ça va avoir dans ma vie. Vous rappelez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est comme ça qu'on développe le fait d'être disciple. Jésus a donné plusieurs conditions pour être disciple. On va les passer un petit peu en revue. Alors, parmi les conditions, nous les trouvons dans Luc 14, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Luc 14, 26. Il a dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères ou ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il ne peut être mon disciple. Donc c'est la condition. Pour être disciple, qu'est-ce qu'il faut faire? Venir à lui et en même temps haïr. Ce mot est difficile et des fois certains même ont été choqués, scandalisés en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Même certains l'ont pris comme argument en disant « voyez le mal que fait cet enseignement parce qu'il divise les familles, il déchire des personnes » et ce n'est pas du tout le sens qu'il faut lui donner. Il est sûr que si quelqu'un essaye de vous détourner de l'évangile, c'est que lui ne vous aime pas. Hein? Il ne veut pas votre bien. Mais à vous-même, vous devez avoir des moments dans votre vie où vous devez faire des choix. Et le choix sera toujours en fonction de ce qui est premier chez vous. Si ce qui est premier, c'est votre attachement naturel, sentimental, familial, ou même tous les projets que vous avez pour votre vie, tout ce que vous désirez voir s'accomplir, alors vous ferez les mauvais choix. Alors Jésus a dit, il y a des situations où, si vous voulez vraiment être un disciple, il vous faudra choisir. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui exerce son libre arbitre, la volonté que Dieu lui a donnée, de choisir et de faire le bon choix, non pas en fonction de motifs qui ne sont pas valables, non pas qu'il soit mauvais en soi, c'est bien d'aimer sa famille, frères et sœurs et tout ça. C'est bien de s'occuper aussi de sa vie, ne pas la laisser à l'abandon. Mais ici, il s'agit de faire un choix dans certaines situations. Un vrai disciple sait faire le bon choix. Mais il ne peut pas le faire du jour au lendemain, ça se développe. C'est pourquoi l'enseignement et l'écoute sont tellement importants. Deuxièmement, Luc 14, 27. « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Porter sa croix. Quand quelqu'un était crucifié chez les Romains, il n'y avait aucune possibilité pour que la crucifixion ne mène pas à la mort. Vous savez, il y a certaines situations, je ne connais pas les lois de tous les pays, je crois en particulier pour la chaise électrique, si ça ne marche pas, s'ils ont mis en route et que le bonhomme il n'est pas électrocuté, eh bien, il est gracié, hein. Ça n'a pas marché, donc on ne réessaye pas tant que ça n'a pas marché, et jusqu'à ce qu'il soit finalement mort, non? S'il y a un problème quelconque, eh bien, la personne, l'exécution a été faite, et lui, il s'en tire. Mais pour la crucifixion, il n'y a aucun doute. Personne ne pouvait jamais en réchapper, puisqu'on le suspendait à la croix, eh bien, jusqu'à ce que, justement, il soit mort. Et on s'assurait qu'il soit bien mort. Donc quand Jésus parle de la croix, dans un contexte difficile, rappelez-vous, là aussi nous sommes dans un contexte d'un pays envahi, occupé par des personnes qui n'étaient pas très gentilles avec le peuple et qui faisaient des exemples et qui faisaient des exécutions et ça allait vite. Hein. Et donc, de la croix, c'était vraiment un objet de haine, on peut dire, pour l'auditoire de Jésus. Donc, c'était très fort. Ne porte pas sa croix, ça voulait dire, n'est pas prêt à aller à la mort. C'est ça que Jésus demande. Et il ne nous demande donc pas de mourir pour lui, mais de vivre pour lui. Quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire, quand tu deviens chrétien, tu dois comprendre que ta vie passée est terminée. Et que maintenant tu es sous l'autorité de quelqu'un d'autre, et que tu ne peux pas vouloir être disciple de Jésus et en même temps n'en faire qu'à ta tête. C'est terminé maintenant, sinon tu n'es pas disciple. Or Jésus lui a dit, faites des disciples. Il n'a pas dit faites des convertis, il n'a pas dit faites en sorte que les gens fassent un pas vers moi. C'est bien tout ça, c'est les débuts. D'abord on fait un pas, puis on donne sa vie à Jésus, reçoit l'amour de Dieu. Mais il a dit, faites des disciples, c'est ça que je demande. C'est le maître qui le dit. Le Seigneur dit, faites des disciples. Ensuite, Jean 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Là encore, souvent mal interprété. Il a dit à un moment au jeune homme riche, il a dit, va, vends tout ce que tu as et après suis-moi. Mais il n'a pas dit à tous ceux qui l'ont suivi de vendre tout ce qu'ils avaient. Par contre, il a dit à tous ceux qui voulaient le suivre et être disciples, de renoncer à tout ce qu'il possède. Renoncer, ça veut dire, les choses que j'ai, je ne considère pas qu'elles m'appartiennent en propre. Elles sont avant tout à qui ? À Dieu. Elles ne sont pas avant tout à d'autres personnes qui voudraient prendre avantage. Parce que nous avons entendu des scandales aussi de soi-disant serviteurs de Dieu, prophètes, qui prophétisaient dans la vie des gens. Le Seigneur m'a dit, tu dois vendre tout ce que tu as, me le donner. Des choses comme ça. Non, là nous pouvons facilement identifier qu'il y a la manipulation. Mais ce que nous devons faire, donc, c'est de ne pas considérer que les choses que nous avons nous appartiennent en propre, mais que puisque nous appartenons à Dieu, eh bien, ce que nous avons aussi lui appartient. Et s'il dit, vends ceci et donne-le à quelqu'un, ou donne l'argent à une mission, ou que sais-je, nous devons être prêts à le faire. Ça va jusque-là. Et nous remarquerons en général que lorsque nous obéissons, premièrement, cela nous libère, et deuxièmement, eh bien, il y a toujours une bénédiction qui en résulte, et qu'on ne peut pas dire, j'ai obéi à Dieu et maintenant je suis dans la misère. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a toujours une récompense. Toujours. Non, nous sommes toujours dans Luc 14, 33. Donc voilà plusieurs conditions. Ensuite, une autre condition, c'est dans Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous vous rappelez, on avait dit que celui qui veut être disciple, ça veut dire qu'il veut être comme Jésus. Alors, comme Jésus, ça veut dire porter du fruit. Il n'est pas dit porter des fruits. Il n'est pas dit, voilà Seigneur, je me présente devant toi avec toutes les choses que j'ai réalisées et faites en ton nom. Et il n'est pas dit, venez avec toutes vos œuvres et ainsi vous serez mes disciples. Il nous est dit, si vous portez beaucoup de fruits. De fruits. Le fruit. Le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, oui, il y a donc selon les la douceur et la maîtrise de soi. Donc ces aspects. Dans certaines versions, au lieu de foi, il y a fidélité, mais les deux vont ensemble, de toute façon. Et donc des fois, il y a bénignité aussi, un mot peut-être un peu plus ancien qu'on utilise moins, mais qui est tout à fait dans le même sens. Donc voilà tout le fruit qu'il voudrait que nous portions, parce que le Père sera glorifié et que tout le monde pourra voir, voilà des vrais disciples. Une autre exhortation, là c'était simplement par rapport à l'ensemble du fruit de l'esprit, mais il y a aussi quelque chose de particulier par rapport à l'amour. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous savez exercer l'amour les uns pour les autres, c'est ainsi que vous serez disciples. On peut donc comprendre que si on n'avait que cette définition du début, un disciple c'est quelqu'un qui est sous l'enseignement d'un maître, et c'est pas ça qui conduit à l'amour. Un disciple, dans ce sens, serait quelqu'un qui a une foule de connaissances. Mais nous avons ici une autre définition. Si vous avez de l'amour, si vous êtes capable d'aimer en permanence, aimer même ce qui n'est pas aimable. Et ça, nous avons beaucoup d'occasions d'aimer ce qui n'est pas aimable. Tout n'est pas toujours agréable chez les autres. Mais rappelez-vous ce que nous avons reçu comme exhortation, c'était dans 2 Corinthiens où il nous était dit, avant nous connaissions les personnes selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus personne de cette façon, mais nous connaissons les personnes dans l'esprit. Si je vois une personne, je vois avant tout, eh bien, une personne, là il est dit les uns les autres, je parle entre chrétiens, je vois avant tout une personne en qui demeure l'Esprit de Dieu, en qui demeure l'amour de Dieu, et que je suis capable d'aimer à cause de cela, parce que je la vois telle que Dieu l'a recréée dans son esprit. Renoncer à... Comment pouvons-nous arriver à cela? Eh bien, en exerçant justement une discipline en ce qui concerne le fait de demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa parole n'est pas tellement compliqué. Pour vous, d'une façon pratique, ça veut dire vous exposer constamment à la parole. Et je dis bien exposer constamment. On comprend qu'un disciple, soit du temps de Jésus, ou comme je parlais des temps de l'Ancien Testament, des fils des prophètes, ces gens-là ne vivaient pas comme les autres. Ils n'étaient pas à leurs occupations, et puis le dimanche matin, ils passaient une heure ensemble pour écouter la parole de Dieu. Mais d'une façon constante, ils considéraient qu'ils étaient à une école de formation, et ils se laissaient enseigner. Mais ce n'est rien d'autre que ça que Dieu attend de nous. De considérer que nous sommes à l'école de Dieu, en train d'être formés par lui, et comment être mieux formés que de s'exposer constamment à sa parole. Et donc, s'exposer à sa parole, ça veut dire que je suis attentif, non pas aux avis des hommes, aux opinions des hommes, ni aux, parmi tous les dizaines ou centaines ou milliers de livres qui existent, les idées d'un tel, les expériences de l'autre, toutes ces choses peuvent être bonnes, mais je suis avant tout attentif à m'exposer à la parole de Dieu elle-même. Elle-même. Donc je prends du temps. Je prends du temps pour la Bible. Je la lis encore et encore et encore. Et je la lis dans un esprit de prière. J'écoute comme écoutent les disciples. C'est-à-dire quand je lis la Bible, je n'ai pas, maintenant il faut que je fasse mon devoir religieux, je dois lire les 2, 3, 5 chapitres que je me suis fixé par jour, et puis après je referme, vite c'est terminé, ouf, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais j'écoute en me disant, j'ai maintenant faim, j'ai maintenant soif de découvrir, d'apprendre, et aussi de me laisser corriger. Vous rappelez, 2 Timothée 3,16 nous dit que la parole de Dieu est utile pour tous ses aspects. Pas seulement pour apprendre des choses, mais aussi être corrigé, être convaincu, instruit. Et finalement, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu sera propre pour toute bonne œuvre. Avec la parole de Dieu, en s'exposant à la parole de Dieu, il y aura forcément un moment où il faudra que j'agisse selon la parole. Et c'est ce passage dans Actes 6, si vous voulez regarder dans la Bible, vous pouvez reprendre Actes 6. Au verset 7, il nous est dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Vous voyez, je veux mettre ces trois choses en parallèle. La parole de Dieu se répand, le nombre des disciples augmente et les sacrificateurs obéissent à la foi. Ce ne sont pas trois choses différentes, ce sont trois choses qui vont étroitement ensemble. Dans Actes 2, nous avons « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Combien d'entre vous, vous avez entendu qu'à la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions? Là, depuis toujours, on avait pensé ça. Et je ne dis pas que c'est faux. Mais je dis, la parole de Dieu est plus précise. Elle dit que « Ceux qui ont accepté la parole ont été baptisés » et il y a eu des disciples. Et on a pu dénombrer les disciples. On n'a pas pu dire combien de gens ont été touchés par le discours de Pierre. On n'a pas pu dire combien se sont convertis ce jour-là. La seule chose qu'on a pu dire, c'est qu'il y a eu environ 3000 disciples. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait baptiser. Et pourquoi se sont-ils fait baptiser? Parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole de Dieu concernant le fait que, eh bien, Pierre leur dise, ce Jésus que vous avez condamné, eh bien c'est lui qui est celui que Dieu a choisi pour sauver le monde. Et il a dit, eh bien maintenant repentez-vous, soyez baptisés et recevez le don du Saint-Esprit. Ils ont accepté cette parole. Et donc, devenir ou être disciple, c'est quand une parole de Dieu vient, eh bien je fais ce qu'elle dit. C'est aussi simple que ça. Et les sacrificateurs obéissaient à la foi, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'ils acceptaient aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. C'est comme si la parole de Dieu était quelque chose de vivant. Vous voyez? Comme si elle était vivante. Mais elle est vivante. C'est la parole vivante. C'est Jésus. En fait, quand nous prêchons la parole, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons que Jésus soit connu lui-même. Vous voyez, il n'est pas dit les enseignements des apôtres eurent beaucoup de succès et beaucoup trouvaient que c'était vraiment une religion intéressante à laquelle ils voulaient adhérer. Non, il est dit la parole de Dieu se répandait. Il est dit comme si c'était quelque chose de vivant qui se déplace, qui se multiplie, qui va partout. Eh bien, c'est ce qui s'est passé réellement. La parole se répandait de plus en plus. Et qu'est-ce que ça a produit? Eh bien, ça a produit que des gens qui acceptent cette parole sont devenus disciples. Le nombre des disciples augmentait beaucoup. Et dans Actes 12, 24, nous avons pratiquement la même chose. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Dans Actes 14, 21, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils ont fait autre chose. Prenons juste le temps de réfléchir encore un petit peu à ce acte 14, 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville, donc je pense que c'est ça la priorité. Des fois on se demande, qu'est-ce qui est sur le cœur de Dieu? Ben, le cœur de Dieu, il est infini, il y a énormément de choses sur son cœur. Mais une chose qui est certainement la première, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La première des choses qui est sur le cœur de Dieu, c'est que des personnes entendent la bonne nouvelle de Jésus. Donc l'ordre numéro un pour l'Église et pour tout croyant, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est vraiment ce qui est le plus pressant sur le cœur de Dieu. Et comme j'ai déjà dit, des fois, c'est la seule raison pour laquelle nous soyons encore sur terre. Autrement, il n'y aurait aucune raison que nous soyons encore ici-bas. Le Seigneur aurait pu nous prendre auprès de lui et être heureux pour l'éternité. Mais notre raison de vivre, c'est d'être ici présent, ses témoins. Évangéliser cette ville, et non seulement évangéliser, mais encore, quoi faire? Faire des disciples. Ils savaient comment faire des disciples. Ça veut dire qu'ils les ont pris, ils ont dit, vous avez accepté la bonne nouvelle de Jésus, maintenant, nous allons vous former, nous allons vous enseigner, et nous allons vous apprendre ce que Jésus attend de vous. Parce que Jésus attend quelque chose de vous. Vous savez qu'il a aussi des besoins. Il a besoin de nous ici-bas parce que nous sommes son corps. Jésus aussi physiquement avait besoin de soutien. Nous avons vu les ministères d'aide qu'accomplissaient les disciples auprès de lui. Il voulait les avoir pour les avoir auprès de lui et pour le servir. Et quand Jésus a eu son heure difficile à Gethsémané, qu'est-ce qu'il avait envie d'avoir auprès de lui ses disciples? Quelques-uns qui persévèrent avec lui. Quelques-uns qui, hélas, se sont endormis. Et dont il n'a pas pu compter sur leur secours. Mais donc maintenant encore, le Seigneur veut que nous fassions des disciples et il cherche des disciples. Il nous est dit de Timothée, acte 16, que Paul s'est rendu à Derbe et à Lystre et voici il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et il nous est dit d'une façon, je dirais très courte et laconique, Paul le prit avec lui. On a l'impression qu'au travers de cette phrase, il n'y a pas eu un long débat. Et Timothée, écoute, j'ai une proposition à te faire. Est-ce que ça te plairait de faire partie de mon équipe apostolique? On voyagerait partout et tu verras, ça sera formidable. Et c'est pas du tout comme ça. En réalité, Paul a vu chez ce jeune homme, il a vu des aptitudes et il a vu avant tout, c'était un disciple. Il s'est dit, ça c'est un disciple, je vais pouvoir en faire quelque chose. Je vais pouvoir l'employer. Ça ne veut pas dire qu'il était instantanément terminé sa formation, prêt à servir, mais en tout cas, il l'a pris avec lui. Ça voulait dire que pour ce Timothée aussi, ça représente un déracinement. Il devait partir maintenant avec ce Paul à l'aventure, laisser, il nous a parlé de ses parents, laisser tout le monde et le suivre. Mais voyez l'œuvre que Timothée a pu faire après et combien il a été un soutien. Et peut-être, on peut se poser la question, est-ce que l'apôtre Paul aurait pu faire le ministère qu'il a fait sans avoir l'appui de Timothée? Il a dit, ils ont travaillé ensemble comme un enfant avec son père. Et à certains moments, il nous a dit, tous m'ont abandonné. Il n'y avait que Timothée pour prendre sincèrement à cœur ce qu'il était en train de faire dans son ministère. Et il y a aussi cette situation dans Acte 19, dans certaines situations, il nous est dit, quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Ils décriaient devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc il y a là encore annonce de l'évangile à tout le monde, mais quand il y a opposition, quand il y a endurcissement et incrédulité, il vient le moment où l'apôtre Paul a séparé les disciples. Je voudrais juste dire un mot encore sur l'obéissance, la soumission et l'obéissance par rapport à la parole de Dieu, ce que ça a produit. Dans Acte 2, nous voyons que ceux qui ont reçu la parole, ils ont agi selon cette parole. Hein? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'était Acte 2, 41. Et je voulais dire l'importance que moi je vois ici dans le baptême. Le baptême, c'est l'identification à Christ dans sa mort. Or, nous avons vu au début que être disciple, c'est être comme Jésus. D'accord? C'est ça. Nous disons que nous voulons ressembler à Jésus. Nous savons que le Saint-Esprit habite en nous, qu'il nous a donné la nature de Dieu, que nous sommes unis à lui et tout cela. Eh bien, là aussi, la parole de Dieu est très claire et très simple. Elle nous demande un acte d'obéissance et de soumission. Le baptême est le début. C'est la façon dont nous pouvons voir que quelqu'un cherche à être disciple. Quelqu'un qui refuse la parole de Dieu, bon, nous prions que Dieu lui révèle l'importance et qu'il puisse obéir à ce sujet, mais de quelqu'un qui refuse, nous ne pouvons pas comprendre comment il ne veut pas suivre son Seigneur dans cette identification. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Identification, ça veut dire perdre en quelque sorte notre identité et avoir celle de Christ. C'est sûr que c'est des langages qui peuvent être un peu difficiles à saisir pour certains, encore difficiles à accepter pour d'autres. Mais lisons juste le passage de Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous voulons être libres du péché. Nous voyons combien le péché nous a fait souffrir par le passé. Quand nous avons réalisé ça, eh bien nous voulons être libres du péché. Eh bien la Bible nous montre la voie de la liberté. Elle nous montre la voie de la délivrance. Et c'est rien d'autre que nous attacher à Jésus. Devenir semblable à lui. Nous voudrions être semblables à Jésus souvent, peut-être dans les choses merveilleuses qu'il a accomplies. Nous voudrions aussi faire des miracles, guérir des gens, prêcher sous l'onction, et toutes ces choses sont excellentes. Mais il y a aussi un passage obligé dans l'identification à sa mort. Renoncer à lui-même, dans tout ce qu'il a souffert dans sa chair, pour nous, par amour. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Avant de pouvoir vivre la vie de résurrection, il faut absolument avoir passé par la mort. Il n'y a aucune autre façon. Donc certains qui sont mal nés spirituellement, qui ont pensé que « prends Jésus dans ta vie et tout sera formidable », ils ont vu toutes les désillusions. Mais il faut qu'il y ait ce passage aussi de la repentance, changement de mentalité, et comprendre ce que ça représente être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus, je ne voudrais pas donner la fausse impression que ce n'est que pénible, souffrance et tout cela. Non, il y a beaucoup de joie à être proche de Jésus, comme on l'a dit, faire partie de sa famille. Un moment, on lui a demandé, on lui a dit plutôt, voici ta mère et tes frères sont là, ils te demandent. Et il nous a dit, regardant ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Donc, ils étaient devenus précieux pour lui. Et vous voyez, pour les autres choses aussi qu'il a dit. Quand il a dit ce verset, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, il les appelle amis à ce moment, c'est dans Jean 15. Donc, n'ayons pas peur de nous identifier à lui, sachant que bien la vie de résurrection aussi nous attend. Et donc, ayons à cœur d'obéir aussi au Seigneur et de voir que c'est une direction pour nous, de dire nous avons à travailler, à faire des disciples. Or, on ne peut pas faire quelque chose qu'on n'a pas soi-même expérimenté. On peut ne reproduire que ce que nous sommes nous-mêmes. Hein. Nos enfants, des fois, on dit qu'ils nous ressemblent parce qu'ils sont issus de nous. Et les enfants de Dieu doivent ressembler à Dieu. Et si nous voulons faire des disciples, alors pour Jésus, il nous faut nous-mêmes accepter d'être des disciples. Amen.